Direct en jeu, la radio insolite, tout droit direction cette belle matinée, le pays ami juste à côté, c'était à la Suisse, où j'ai le plaisir de retrouver Benjamin de l'Union Postale Universelle. Bonjour Benjamin.
Bonjour Alain.
Alors, moi au début je disais pas l'Union Postale Universelle, je disais l'Union Postale Internationale. Question toute bête, qui es-tu, que fais-tu dans la vie, qu'est-ce que c'est que l'UPU?
Alors, je suis Benjamin Combe, donc je suis un expert détaché de la Poste française au sein de l'Union Postale Universelle. L'Union Postale Universelle, c'est la plus ancienne, la seconde plus ancienne agence spécialisée des Nations Unies en charge du modèle de régulation postale entre les opérateurs du monde entier. Vulgairement, on est le régulateur qui permet à toutes les postes du monde entier de s'accorder et de s'entendre sur un modèle et des règles communes à toutes.
C'est-à-dire que c'est l'organisation qui met en place, comment dire, j'allais dire les mêmes règles, en tout cas des règles consensuelles dans tous les pays du monde. Il y a de quoi faire. Hein.
C'est cela. Services physiques, services numériques, services financiers, digitalisation, courrier, colis, philatélie.
D'accord. Alors, ce qui est assez original, c'est que si l'an dernier, au mois d'octobre, vous avez fêté les 150 ans, ça fait quand même, il y a eu du temps pour le mettre en place. Parce que ça, il y a déjà eu des idées, comment dire, en 1841.
Alors oui, dès la première moitié du 19e siècle, il y a eu quelques tentatives, notamment avec l'Allemagne et l'Autriche à l'époque, qui avaient essayé de se réunir autour d'échanges, mais les travaux n'avaient jamais réellement avancé faute de soutien, et il a fallu réellement attendre 1863 et une réunion qui s'est tenue à Paris avec une quinzaine d'opérateurs principaux sur la demande de Montgomery Blair, le postmaster général des Nations Unies, des États-Unis pardon, d'Amérique, avec le soutien de leur président de l'époque, pour que Heinrich von Stefan discute d'un organe qui verra le jour en 1874 sous l'intitulé d'Union Postale Générale à cette époque-là. C'est seulement en 1878 que l'Union Postale deviendra universelle suite à son second congrès qui s'est tenu à Paris, d'ailleurs.
Et l'idée, c'est d'essayer de poser des bases de fonctionnement tous ensemble.
Oui, l'idée, c'est... Il faut se rappeler que au 19e siècle, avant l'Union Postale Universelle, chaque pays avait ses propres règles,
oui.
Généralement bilatérales, ses propres règles de fonctionnement, ses propres coûts, ses propres tarifs. Certains comptaient en miles, d'autres en kilomètres, d'autres en nombre d'heures de chevaux. C'était extrêmement compliqué et extrêmement chaotique d'envoyer un courrier, un pli, une lettre, un colis d'un pays à l'autre, et encore plus quand il fallait transiter par un pays tiers. Ces règles étaient toutes différentes, elles changeaient parfois plusieurs fois dans la même année, et c'est justement en vue de répondre à ça que Heinrich von Stefan et Montgomery Blair ont souhaité créer l'Union Postale Universelle, c'est-à-dire un terrain sur lequel toutes les postes s'accordent sur des fonctionnements, des règles et des modèles de bonnes pratiques communs à tous.
J'ai demandé à un auditeur, comment dire, comme ça, hier, je lui ai dit, pour toi, si je te dis Union Postale Universelle, qu'est-ce que c'est? Et il m'a dit, oh, c'est simplement quand même la création de timbres identiques dans le monde entier. J'ai trouvé ça assez original comme réponse. En fait, l'Union Postale ne crée pas de timbres.
Alors non, je ne commenterai pas la réponse de l'auditeur, mais c'est effectivement c'est intéressant de voir à quel point l'Union Postale est méconnue.
Oui.
Non, clairement l'Union Postale est un régulateur.
Oui, un régulateur.
Comme un régulateur, on n'est pas un opérateur, nous ne sommes pas un opérateur, nous n'émettons pas de timbre en question. Par contre, nous émettons au bénéfice des opérateurs désignés du monde entier, donc l'Union Postale Universelle, c'est aujourd'hui 192 pays membres et 220 opérateurs, nous émettons depuis 1907 des coupons réponses internationaux qui sont toujours en circulation aujourd'hui et qui sont le produit le plus proche du timbre universel. Mmh.
Parce que dans le raisonnement, il n'est pas possible d'avoir un timbre universel dans tous les pays, puisqu'on a l'euro maintenant en Europe, par exemple. Je pourrais donner cet exemple, mais bon.
Alors, le timbre matérialise un service.
Oui.
Un service de transport d'un courrier d'un point A à un point B.
Exact.
Quand ce service, il est émis depuis un pays vers un autre, ce qui compte, effectivement, c'est le transport du dit courrier depuis son point de départ jusqu'à la frontière, mmh. et ensuite à l'étranger. Donc, il faut que le timbre qui soit utilisé dessus, qui est juste là pour matérialiser le fait que vous êtes acquitté de l'affranchissement, a été payé. Je reviens juste une seconde sur le coupon réponse internationale dont je parlais tout à l'heure. Mmh. C'est un coupon, en fait, qui est acheté dans n'importe quel pays membre de l'UPU et qui est échangeable dans n'importe quel autre. Ce qui veut dire que aujourd'hui, un seul de ces coupons vaut pour l'émission d'un, vaut pour un timbre dans n'importe quel des 192 pays de l'Union postale universelle. Mmh. Ce pourquoi je pointais comme le plus proche du timbre universel en lui-même.
D'accord. Oui, parce que c'est vrai que si on était un peu basique, je mets un timbre en France, j'envoie en Belgique par exemple. Comment ça se fait que la lettre puisse arriver en Belgique et être distribuée, étant donné le fait que c'est un timbre français
qui n'est... Alors, la première raison pour laquelle elle arrive, c'est qu'effectivement, il y a des accords bilatéraux entre la France et la Belgique, mais surtout, il y a des accords entre la France et la Belgique pour être membre de l'UPU. C'est-à-dire que le courrier est transmis et ensuite, à chaque fin d'exercice, effectivement, il y a des frais terminaux qui sont recalculés, qui sont échangés et qui sont réglés entre les pays pour l'acheminement du dit courrier.
D'accord. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'UPU, comme tu dis, il y a 192 pays qui sont membres, mais ça rayonne un peu partout dans le monde entier. C'est-à-dire que la Poste française, ben on a nos bureaux de poste, on a nos salons philatéliques, mais là, l'UPU, c'est aussi bien aux États-Unis, c'est aussi bien, comment dire,
alors oui,
en Amérique du Sud, et puis c'est aussi en Chine, par exemple.
Aujourd'hui, selon les décomptes, la planète, c'est 195 ou 196 pays. Donc aujourd'hui, 192 pays membres, c'est la totalité, plus les différents opérateurs désignés qui sont associés à chaque État, mmh. 220 opérateurs, puisque sur certains territoires, il peut y en avoir plusieurs. Je prends l'exemple de la Bosnie-Herzégovine, qui a 3 opérateurs à cause de ses zones géographiques. Mmh. Et effectivement, l'UPU est le régulateur qui aide chacun de ces pays aussi à se diversifier, aussi bien sur leurs services physiques, numériques, financiers, digitalisation, dans la lignée du respect des objectifs de développement durable édités par les Nations Unies.
D'accord. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des missions qui sont allouées à l'UPU. Si je n'ai pas de bêtises, il y en a 12, si je me rappelle bien ce que tu m'as dit. Est-ce que ce sont des missions de contrôle, des missions d'accompagnement, des missions de coopération?
Alors, non, enfin, il n'y a pas 12 missions. Il y a aujourd'hui les missions principales de l'UPU. En corrélation avec les objectifs de développement durable des Nations Unies qui sont au nombre de 17, les missions principales de l'Union postale universelle, c'est de garantir la libre circulation des envois postaux sur un territoire unique et composé de réseaux interconnectés, d'encourager l'adoption de normes communes, l'utilisation de la nouvelle des nouvelles technologies, la coopération et l'interaction entre les pays, et favoriser une coopération efficace qui puisse veiller à la satisfaction, je dirais, des besoins évolutifs des clients qui évoluent au quotidien.
D'accord, ok.
Donc, on est, au niveau de l'UPU, la seule aujourd'hui instance internationale qui audite et analyse au quotidien les évolutions sociétales nécessaires pour le milieu postal. Aussi bien en termes de douane, de règles, qu'est-ce qu'on a le droit de mettre dans un colis, qu'on n'a pas le droit de mettre dans un colis, pourquoi est-ce que mon colis peut arriver depuis l'Australie à Paris en 4 jours, mm-hmm. Et de façon garantie. tous ces aspects-là, et comment on aide aussi des pays plus en voie de développement à se digitaliser, à accéder à tout type d'informations.
D'accord. L'arrivée des fameux timbres NFT, ces timbres dématérialisés, est-ce que c'est aussi quelque chose qui est une évolution importante au niveau postal, au niveau mondial ?
Alors, je ne parlerai pas uniquement des timbres NFT, je parlerai plus globalement des timbres, des nouveaux formats de timbres digitaux.
Tout à fait.
Puisque derrière effectivement ces formats, il y a à la fois d'un côté les NFT qui ne sont que des produits dits de collection qui sont dans le cloud, qui sont purement digitaux, qui n'ont absolument aucune valeur d'affranchissement postal, et les crypto-timbres, qui, eux, disposent d'un jumeau physique qui a ses fonctionnalités d'acheminement du courrier. Je vais prendre un exemple très simple. La Poste française a émis en est à sa troisième édition de ce qu'ils appellent les NFT timbres, aussi parce que dans un souci d'éducation aussi des collectionneurs et des utilisateurs, on a conscience que dans la langue française, le terme crypto peut parfois faire peur, mais en réalité, leur NFT timbre est un crypto timbre. Puisqu'il a la vocation de permettre l'expédition de courrier. L'UPU a adopté une série de règles et de définitions autour de ces fameux timbres en 2022, mais l'UPU reste aussi flexible et comprend les problématiques que peuvent rencontrer des pays, par exemple, comme la France. On ne peut pas imposer aux gens du jour au lendemain de dire, voilà, bah, demain c'est des crypto-timbres, vous savez pas ce que c'est pas grave, on va vous donner la définition brute. Il faut les accompagner et je loue l'action de la Poste française là-dessus, même si elle ne respecte pas forcément exactement le texte dans son ensemble, de prendre aussi le temps d'accompagner son écosystème, d'accompagner les collectionneurs et les utilisateurs vers une transition qui n'est pas effrayante pour eux et qui les amène vers un nouveau format digital. Pour revenir à ta question initiale, ces nouveaux formats de timbres ne sont pas, à mon avis, une révolution en soi. Alors déjà, il est difficile de vraiment les positionner. On voit une fracture se faire entre les collectionneurs philatéliques historiques qui vont vous dire que ce n'est pas de la philatélie. Alors, ce n'est pas de la philatélie classique au sens propre du terme.
Exactement.
Mais comme il y a une vingtaine d'années...
C'est pas un timbre papier,
j'allais dire. Si, pour les crypto-timbres, il y a un timbre papier, mais un peu comme pour les timbres en réalité augmentée, quand ils ont vu le jour il y a 20-25 ans, effectivement, c'est nouveau, ça arrive, il faut aussi que les gens, le temps que les gens s'y fassent, ils ont leur public, des publics qui ne sont pas forcément non plus des philatélistes ou des collectionneurs philatélique, mais il va leur falloir un petit peu de temps aussi pour trouver leur place. Ils ont été assez bien acceptés partout et les gens sont ouverts d'esprit. Ils s'intéressent aussi à ces nouveaux formes.
Ce qu'il y a simplement, c'est que dans tous les pays, il y a une culture différente et c'est ça qui est assez original. C'est l'évolution de la poste, enfin de ces échanges, est assez conséquente quand on se demande qu'est-ce qui va se passer en 2030, en 2040.
Oui, alors, en 2030 ou 2040, je pense que la poste fonctionnera toujours un peu de la même façon qu'elle fonctionne aujourd'hui. On a besoin des postes. Les gens aiment les postes, aiment leurs facteurs, aiment leurs services postaux et on le voit clairement. Donc, quel que soit le pays ou le territoire, l'opérateur postal est souvent dans les premières instances gouvernementales ou associées, citées par les concitoyens, parmi leurs entités préférées. Elle doit évoluer, ça c'est clair, elle se digitalise, elle se professionnalise, elle intervient dans énormément de métiers de service et elle se réinvente en elle-même. La philatélie n'y échappe pas. Hein. La philatélie, aujourd'hui, se réinvente. Ce n'est plus le même art que celui qui était fait en 1840 quand les Anglais ont peigné le premier penny black. Mais aujourd'hui, elle se réinvente au quotidien et elle a, je pense, encore un bel avenir devant elle.
Si je veux en savoir plus sur l'Union Postale, comment je fais ?
Alors, la première chose, si vous voulez en savoir plus sur l'Union Postale, il faut aller sur le site de l'Union Postale Universelle. Il est disponible en français et en anglais dans le monde entier. Mmh. C'est www.upu.int, comme international. Mmh. Et là, vous aurez accès à énormément d'informations et de données, y compris énormément de ressources sur la philatélie et sur tout ce que mon programme peut réaliser pour l'Union Postale Universelle. Donc moi, je suis en charge de la philatélie ainsi que de tout le patrimoine documentaire, c'est-à-dire les archives, les services documentaires actuels et autres.
Parfait. Bah, écoute, je voulais te remercier d'avoir pris ces quelques minutes pour nous faire découvrir quelque chose qui s'adresse peut-être un peu moins au grand public, mais qui est quand même de manière primordiale pour que tout fonctionne comme il le faut. Merci à toi en tout cas.
Mais merci Alain, et je me permets juste une dernière aparté.
Oui.
Pour tous les auditeurs, collectionneurs ou amateurs de philatélie, on a offert depuis le 9 octobre un service d'oblitération anniversaire pour tous les collectionneurs qui souhaitent pouvoir bénéficier du cachet spécial d'oblitération localisé à Berne en date du 9 octobre pour les 150 ans de l'UPU. Ils peuvent envoyer leur courrier et leur timbre au bureau international de l'UPU à Berne. Et ils y seront traités directement. Juste mentionner Bureau International, oblitération 150 ans, et Weltpostverein, Weltpoststrasse 4, 3015, Berne.
D'accord. Eh bien, merci à toi.
Merci Alain.